Écoutez. Écoutez, c'est StFM.
18h02 sur StFM. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver autour de la table ronde. On vous l'a annoncé depuis plusieurs jours maintenant, du beau monde, puisque nous allons parler de l'haltérophilie et de ces championnats exceptionnels qui auront lieu ce week-end à Durstel, demain, dimanche, avec mes trois invités. On va bien sûr vous donner tout le programme. Alors, à commencer, je ne sais pas, parce que je suis entourée de messieurs, je ne sais pas par qui je vais commencer, par Guy, voilà, Guy Collère qui est avec nous. Bonsoir Guy.
Bonsoir Sylvie.
Merci d'être avec nous. Premier vice-président de la Fédération française d'haltérophilie. Le titre est juste, on ne s'est pas trompé.
Tout à fait.
Ancien international et champion de France. Vous nous raconterez un tout petit peu votre carrière pour le grand public qui a envie de savoir et de vous connaître. À ma gauche, un ami de la maison, bien sûr, Freddy Bruat. Bonsoir Freddy.
Bonsoir Sylvie.
Merci d'être avec nous. Président du club haltérophilie de Durstel, connu comme le Loup Blanc, et président de la Ligue du Grand Est. Et puis, à côté de Freddy, David Matam. Bonsoir, David.
Bonsoir, Sylvie.
Et bienvenue aussi, bien sûr, parmi nous, ancien capitaine de l'équipe de France. Vous avez une sacrée carrière, vous nous le raconterez tout à l'heure. Et vous êtes actuellement conseiller technique sportif du Grand Est.
Oui, c'est ça.
Vous nous expliquerez votre rôle, qui doit là aussi être important et fascinant. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Alors, messieurs, avec vous, bien sûr, on va détailler ce formidable rendez-vous qui démarre demain. Vous nous direz d'ailleurs si tout est prêt. Enfin, on peut tout de suite le savoir. Tout est prêt, quasiment ?
Tout est prêt, quasiment, oui.
Le public peut venir à quelle heure demain ?
Dès le début des compétitions, à partir de 12h.
Très bien. On va détailler de toute façon de quoi il s'agit exactement. Mais d'abord, revenons sur le rôle de chacun et sur votre carrière sportive. D'abord, peut-être, je ne sais pas qui veut dire un premier mot, le grand public pense souvent mal, ou en tout cas des choses pas toujours évidentes sur l'haltérophilie. Qui c'est qui peut nous vendre l'haltérophilie et surtout nous expliquer ce que c'est précisément pour quelqu'un peut-être qui n'en a jamais fait? Ceux qui nous écoutent se disent « Ah oui, d'accord, l'haltérophilie, on soulève des barres et c'est tout ?»
On soulève des barres après, mais on peut commencer bien avant. Quand vous prenez un enfant de 6 ans qui va à l'école et qui met son cartable sur le dos, il fait déjà de l'haltérophilie. Donc c'est là que ça commence. Et on développe auprès de la fédération un outil qui s'appelle les haltérotours, que le Grand Est va découvrir bientôt grâce à David, qui est justement une action sur le porté du cartable. Et c'est là que ça commence avec les tout-petits. Et on commence tout petit pour devenir de grands champions.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'haltérotour, oui, David nous en parlera, mais ça veut dire que vous faites le tour des écoles pour promouvoir l'haltérophilie ou simplement déjà pour que les petits se tiennent correctement? C'est une histoire de posture à la base?
C'est déjà pour leur apprendre à se positionner quand ils soulèvent une charge, parce que pour un gamin de 10-12 ans, de soulever un cartable de 5 kilos plusieurs fois par jour, c'est pas évident. Donc on va leur apprendre à se placer et à réaliser des gestes corrects. Et ces gestes corrects, c'est le chemin qui va les mener à l'haltérophilie.
Et quand est-ce qu'on peut démarrer d'ailleurs l'haltérophilie? À quel âge?
Alors nous, en France, on démarre l'haltérophilie en général vers 12 ans. On a fait quelques expériences à partir de 8 ans. Avec des athlètes alsaciens qui vont s'exprimer demain, Marie-Christophel par exemple. Mm-hmm. Et on voit que finalement, plus on commence jeune et plus l'entraînement est adapté, plus on arrive à faire des champions.
Eh oui, et quand on dit haltérophilie, moi je sais, on va être très franc, hein, les gens d'ailleurs qui nous écoutent, pour certains, doivent le penser, les gens se font mal au dos avec l'haltérophilie. On entend souvent ça, enfin des idées préconçues, alors dites-nous le contraire.
Vous imaginez pas. J'ai remis il y a 2 mois un label Sport Santé Fédéral au club du Cercle Michelet à Orléans, qui m'a fait une démonstration de son action dans le cadre de la santé, avec 8 mamies dont la plus jeune avait 75 ans et la plus âgée 85 ans, et elle pratiquait les arrachés en faire pâlir de bien plus jeunes.
Ah, alors il n'y a pas d'âge, ça veut dire qu'on peut démarrer enfant et puis on peut continuer même quand on est mamie, papy, on peut y aller, on aura pas mal au dos, au contraire, parce qu'on apprend à soulever une barre correctement, c'est pas juste pour faire de la tchatch, quoi.
Eh ben moi j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 12 ans, l'haltérophilie. J'ai quand même fait 210 kilos à l'épaule jetée. J'ai jamais eu mal au dos. J'en ai 63 aujourd'hui. J'ai toujours pas de mal au dos. J'ai pas de rhumatisme. Je me porte comme un charme.
Mais j'allais dire bon pied, bon œil. Vous êtes l'exemple. On va dire ça comme ça.
J'ai pas toujours été exemplaire. Mais je suis la démonstration que l'haltérophilie est loin d'être accidentogène comme on la présente. Voilà. Elle est loin d'empêcher la croissance. Moi, j'ai vu des gamins démarrer. Ils étaient tout petits, ils avaient un mètre. Et puis, à la fin de leur carrière, ils en avaient 1m85. On ne comprenait pas. Et ben, finalement, ça n'agit jamais, justement. Les tensions, les compressions, les extensions, les étirements, ça favorise la croissance.
C'est bien de le dire hein, à celles et ceux qui nous écoutent. Et ce sera bien qu'ils viennent voir tous ces athlètes ce week-end hein, pour vraiment voir ce que c'est l'haltérophilie. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, et vous l'avez dit. Au contraire, ça fait du bien.
Et si vous regardez bien autour de vous, les rugbymen, les volleyeurs, les handballeurs, les basketteurs, tous passent en ce moment à l'haltérophilie. Mmh. Ils en comprennent les bienfaits.
Alors, Guy, vous, votre parcours, il est plutôt exceptionnel. Vous avez été champion. Racontez-nous, alors en deux mots, si on peut faire un résumé. C'est bon de ça, on a envie de savoir, Guy, les gens.
Exceptionnel, ça fait déjà un moment.
Hein. Mais ça fait rien.
Ça fait un moment. J'ai commencé l'haltérophilie à 12 ans parce que ma maman, elle trouvait que j'étais un peu rond et qu'il fallait que je perde un petit peu de poids. Ah. Et puis, que son kiné lui avait dit, regardez là-bas, il y a une école d'haltérophilie, et c'est très bien l'haltérophilie pour votre fils, ça va lui faire du bien. J'ai commencé donc à 12 ans, à 15 ans j'avais battu un record de France, à 17 ans ou 18 ans j'étais champion de France cadet, à 20 ans j'étais en équipe de France, j'y suis resté quelques années, j'ai fait une trentaine de sélections internationales, j'ai fait toutes les compétitions qu'on peut rêver faire, champion d'Europe, champion du monde, sauf la compétition suprême, les Jeux Olympiques. Loupé Moscou de 5 kilos, Los Angeles de 2,5 kg. C'est peut-être pour ça que je suis devenu dirigeant, parce que j'espère bien y aller à Tokyo cette année.
Ah, bah justement, comment on arrive, après cette carrière, à être le premier vice-président de la Fédération française d'haltérophilie? C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là?
Bah, tout d'abord, une grosse complicité avec l'ami Freddy Brua, qui nous a permis de prendre les rênes de la Ligue d'Alsace, dont j'ai été pendant 25 ans le président. Et Freddy Brua a été mon secrétaire général et mon vice-président selon les moments. C'est tout naturellement qu'il a repris la main quand moi je suis passé à la fédération. Et d'élection en élection, il a fallu se bagarrer, parce que là aussi c'est jamais fait. C'est aussi de la politique. On en arrive à devenir numéro 2 de la fédération. Espérons en 2020, numéro 1.
Eh bien écoutez, on l'espère pour vous. Mais en quoi ça consiste? En deux mots. Hein. Ensuite, on laissera la parole bien sûr à Freddy et à David. En quoi ça consiste, encore une fois, pour le grand public, un vice-président? C'est quoi votre rôle?
Alors moi, je suis vice-président chargé des affaires intérieures. C'est-à-dire que je gère tous les problèmes intérieurs. C'est une espèce de premier ministre. Mmh. Je m'occupe aussi des équipes de France et de la commission technique, de l'organisation sportive du territoire.
Ah oui, ça ne s'arrête jamais. Donc, vous êtes toujours en mouvement, si j'ose dire.
Ça fait à peu près un mois que mon épouse ne m'a pas vu plus de deux jours.
Ah, la pauvre. Mais oui, voilà, quand on aime, on compte pas. Et on va dire ça.
Je ne sais pas si elle est aussi désespérée que ça.
C'est clair. En tout cas, merci Guy pour ces premiers mots. Hein. On en sait un petit peu plus sur vous. Alors Freddy, évidemment, est un ami de la maison. Freddy Brua, président donc du club d'haltérophilie de Durstel, président de la Ligue du Grand Est. Alors Freddy, eh ben, pareil, moi je vais demander une petite carte d'identité pour celles et ceux qui nous écoutent. Un CV, tiens. Quand avez-vous commencé l'haltérophilie? Pourquoi? Et le parcours?
Ben, un CV assez rapide, puisque bon, je l'ai déjà expliqué deux fois sur votre antenne. Je dirais quelque part, la force a toujours été pour moi une passion dans ma jeunesse. Donc les films Peplum, tout ça, Hercule, Massiste, c'était ma passion. Donc c'est un peu naturellement, je dirais, que j'ai atterri à l'haltérophilie. Le problème, disons pour moi, c'est que j'ai démarré assez tard. J'ai démarré vraiment à m'entraîner, j'avais quasiment 19 ans, 20 ans, donc pour moi, quelque part, par rapport à à un niveau international, pour moi, le train était déjà passé. Donc...
Et pourtant, on se dit 18, 19 ans, c'est jeune. Non, c'est pas assez.
Pour arriver plus haut, il faut vraiment démarrer avant l'âge de l'adolescence.
Bon, alors vous entendez, hein, les enfants là, qui nous écoutaient, il faut y aller.
Mm-hmm. Bon, ceci étant, à force d'entraînement et de volonté, j'ai fait mes meilleures perfs à l'âge de 30 ans quand même, et j'ai atteint un niveau fédéral qui correspond actuellement à un championnat de France B, quoi. Donc j'avais fait à 80 kilos, j'ai fait 112 arrachés, 145 épaules jetées.
Et ensuite, comment on devient président de ce club important de Durstel ?
Ben, à un moment, c'est politique, ça évolue, les champs changent, et puis à un moment, il fallait bien prendre le relais, et puis voilà, je suis tombé dedans. Et
ça
puis,
fait longtemps maintenant.
Ça fait longtemps, ça date depuis 1987, donc ça fait... Si je compte bien, ça fait 32 ans.
Voilà, donc, des bougies à souffler, là, ouais.
Il y a des bougies à souffler. C'est vrai que quand on prend ça, on est nouveau, on est un bleu. Mmh. Et puis progressivement, avec l'âge, avec la complicité aussi de certaines personnes, avec la complicité d'amis, avec Guy Collère, on a pris à une époque la Ligue d'Alsace, on est des compères de longue date, on a mené main combat ensemble. Et puis voilà.
Que de chemin parcouru.
Que
hein.
de chemin parcouru. Ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi une part de passion, puisque bon, la passion, il faut l'avoir. C'est pas simple tous les jours. Hein. Ouais. Je dirais aujourd'hui, avec les fonctions, Gongui, j'ai un peu pris le relais. Lui, il avait la Ligue d'Alsace. Ben, ensuite, entre-temps, s'est créé le Grand Est. Guy a pris des responsabilités au sein de la fédération. C'est un peu naturellement que j'ai pris le relais par la suite, mais c'était quand même un peu un cadeau empoisonné. parce que c'est une sacrée charge de travail. Je dirais aujourd'hui, heureusement qu'on est à la retraite, parce que c'est quasiment ou c'est un 35 heures par semaine.
Oui,
quoi.
J'allais dire, là, on ne peut pas et travailler et s'occuper d'un club et de toutes ces responsabilités-là. Ce serait peut-être pas possible.
Ben, je dirais aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, dans la manière dont le sport évolue, avec les contraintes que ça a, ça devient extrêmement difficile et extrêmement complexe, et j'avoue que souvent il faut s'accrocher, puisque quelquefois on arrive aussi souvent à la limite de nos compétences, où il faut refaire des formations, où il faut essayer de chercher à comprendre, il faut essayer de s'entourer de gens qui savent aussi. C'est pas évident,
mais n'empêche que aujourd'hui, qui ne connaît pas le club et tout ce qui fait de... Ça rayonne quand même Durstel grâce au club.
Oui, c'est vrai aujourd'hui.
Depuis
tout le monde.
Longtemps.
Il y a beaucoup de monde, il y en a quelque chose que je cite souvent, il y a beaucoup de monde qui nous connaît effectivement. Les gens, quand ils viennent ou quand je leur parle de notre club, beaucoup disent, vous avez de la chance, vous avez une belle salle. Oui, peut-être, mais c'était pas que de la chance, c'est du travail de 35 ans.
C'est ça.
Si
ouais.
aujourd'hui, les dirigeants locaux, le CIVU de l'AIC Avenir, les maires des communes, s'ils nous ont fait confiance pour construire cet équipement qu'on a aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, à un certain moment, on a aussi montré un savoir-faire et qu'on est allé de l'avant. On va organiser notre quatrième finale nationale. On est aujourd'hui le club où, en termes de nombre de licenciés pour la saison qui s'est écoulée, on est deuxième club au niveau du Grand Est en termes de licenciés dans un village de 400 habitants. Il faut le dire quand même, quoi.
Ouais, c'est quand même assez fou, quoi. Mais c'est dû au travail que les uns et les autres avaient fait depuis toutes ces années. Et d'ailleurs, les personnes qui seraient intéressées, qui nous entendent, pourront vous voir ce week-end aussi. Ce sera l'occasion peut-être, les uns et les autres, de voir les athlètes, de bavarder avec vous, de voir comment ça se passe. C'est peut-être l'occasion, là.
Ben, c'est l'occasion, bien sûr. C'est l'occasion de découvrir l'haltérophilie. Je viens juste voir, il faut que je le dise quand même, je viens juste voir, avant qu'on prenne l'émission, sur notre page Facebook, il y a quelqu'un qui est encouragé à venir voir l'haltérophilie, et puis il y a quelqu'un qui a répondu l'haltérophilie, bof.
Oh,
je dirais ce genre de remarque, c'est dommage.
Ah oui, c'est dommage.
Si on n'a pas vu, si on n'a jamais vu, alors on a le droit de ne pas aimer, ou d'aimer ou de ne pas aimer. Mais déjà, on vient s'informer, on vient voir.
Voilà, on vient s'informer et voir.
Mais Freddy Bouffe, c'était pas la signature.
Pas mal. Dans un instant, le temps passe, hein, 18h17 sur STFM, on parle de l'haltérophilie, on s'intéresse aux hommes, aux femmes et à cette compétition exceptionnelle. Et dans un instant, je donnerai la parole à David Matam, qui lui aussi a un parcours exceptionnel, ancien capitaine en plus de l'équipe de France. Il va nous raconter tout ça, David, juste après la pause. Merci, c'est sur STFM que ça se passe.
STFM. La radio de toutes les générations.
Ah ouais, ça c'est la boxe, mais l'haltérophilie c'est mieux, et vous en aurez la preuve ce week-end à l'occasion de ce grand championnat. On va en parler dans le détail, bien sûr, qui va se dérouler à Durstel avec mes invités. Petit rappel, si vous venez de nous rejoindre, soyez d'ailleurs les bienvenus. Guy Kohler est à mes côtés, premier vice-président de la Fédération Française d'Haltérophilie. Freddy Brua, président du club d'haltérophilie de Durstel et président de la Ligue du Grand Est, et qu'on a entendu tous les deux, et David Matam. David, ancien capitaine de l'équipe de France, actuellement conseiller technique sportif du Grand Est. Alors vous aussi, vous avez une sacrée carrière. J'ai même un papier, je m'en suis pas sortie. Je vous avouerai que je m'en suis mis. Alors pas du tout sortie, je me suis dit, mais oh, quel champion! Alors, petit résumé, si on peut faire un résumé, David, de votre carrière.
Alors, j'ai commencé l'haltérophilie en 94, donc j'avais en 1994.
Et pourquoi? À quel âge et pourquoi?
Disons que avant j'étais, je vivais avec ma mère, hein, donc mais mon père ils étaient séparés, donc j'étais à 250 km de Yaoundé, du centre-ville. Donc moi j'étais avec ma mère et donc l'haltérophilie, moi j'ai découvert lorsque à la télé, lorsque je voyais mes frères en pratiquer. En compétition. Donc moi j'ai dit à ma mère bon voilà, donc
mais vous aviez quel âge à ce moment-là?
Alors donc j'avais 17 ans. J'avais 17 ans hein, lorsque j'ai ouvert les yeux par rapport à ce sport-là.
Et donc, vous avez dit moi je veux aussi.
Voilà, j'ai dit bon après quelques échecs à l'école, études, bon je voyais comment ma mère galérait pour me payer la scolarité, donc j'ai demandé qu'elle arrête et que c'est pas la peine de se bouffer la santé. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc après le judo, et j'ai dit qu'il fallait que j'aille rejoindre mon père à Yaoundé, donc et qu'elle arrête. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai pris le transport, mon sac, j'avais juste un petit sac. Hein. J'ai débarqué, ils m'attendaient pas, je suis arrivé et bon, certaines personnes m'ont reconnu parce que bon, il semblerait que je leur ressemble.
Et
que,
enfin, voilà.
Donc et là directement, j'ai été bien accueilli et puis je me suis rendu à la salle d'entraînement. Je ne connaissais même pas la technique hein, à l'époque. Donc je suis parti me glisser sur une barre chargée à 140 kilos où j'ai tiré, j'ai l'aminé aux épaules quand même, mais après elle est retombée sur mes genoux, elle m'a éclaté les genoux, hein, la rotule, et donc il m'a gueulé dessus hein, plusieurs fois, il m'a interdit d'entrer à la salle.
Ah carrément.
Oui, il m'a dit tu vas plus là-bas. Donc j'ai dit mais bon voilà, moi j'ai respecté sa volonté. Et donc lui, il a voulu absolument que je fasse le judo. Hein. Donc moi j'ai dit non, le judo, bon c'est bien, mais l'haltérophilie, voilà.
C'est mieux.
Ou on lève la charge ou on lève pas. C'est très clair. Hein. Donc vous luttez contre une charge qui est au sol et c'est vous hein, qui devez la lever. Et donc même une grande mère de 99 ans, elle va savoir si oui ou non vous l'avez levé ou pas. Donc c'est très clair, c'est un sport vraiment très respectueux qui permet effectivement de travailler ses qualités explosives, ses qualités de force et tout ça. Et puis ça permet également d'impulser une certaine confiance en soi. Et donc voilà, à travers ça, j'ai quelques temps.
Mais il fallait quand même persévérer parce que si le papa voulait pas et...
Oui mais après, attendez, c'est pas fini. Ah, après, il y a des gens qui viennent lui dire derrière, hein, derrière la porte, c'est-à-dire pas derrière. En disant, mais dis donc, on l'a vu, hein, attention, hein.
Ah.
Il a levé. Hein. Alors mon père dit, ah ouais, vous êtes sûr? Il a levé.
Ouais.
Ah ouais, vous croyez qu'il a... Oui, il a levé. Donc, mon père, alors petit à petit, j'ai vu qu'il a commencé à baisser la garde, donc c'est-à-dire à lâcher un peu.
Il a dû se dire, bon, mon fils, là, on va
donc,
le laisser.
Donc, petit à petit, il m'a laissé, petit à petit, aller à la salle. Donc, bon, après, là, il fallait que je reprenne petit à petit. Il m'a dit, tu sais, il faut aller doucement, tout ça. Donc, bon, bah, j'ai commencé petit à petit. Et donc, j'avais 18 ans, vraiment, quand j'ai été sélectionné, ma première sélection, donc, en Afrique du Sud. Donc, j'étais déjà sur des barres de 110 et puis 140 à l'épaule, j'étais parti trop vite. J'avais, voilà. Bon, mais il y avait aussi cette détermination, parce que bon, c'est, après tout, il y a cette volonté lorsqu'on on s'engage sur quelque chose. Il faut pas se poser des questions, il faut y aller sans recul. Donc,
mais le but là, à ce moment précis, c'était quoi? De devenir à tout prix un grand champion? C'était quoi dans la tête?
Alors mon prénom c'est Hercule, hein, ça c'est sûr. Donc vous savez un peu à quoi ça ramène un peu au niveau de la mythologie grecque. Samson, Hercule. D'ailleurs j'ai un frère qui s'appelle Samson, l'autre qui s'appelle Héraclès, l'autre qui s'appelle Hercule. Donc moi David, bon voilà.
Ah, dents,
donc
ouais.
Donc moi j'aimais
c'est
un peu.
C'est prédestiné tout ça.
J'aimais un peu les sports de force. J'aimais un peu tout ce qui était force, quoi. Mm-hmm. Voilà, je voulais tout seul. Voilà, il fallait que j'y aille, il fallait que je voie et que je me définisse et que j'arrive à me surpasser et à voir si je suis capable ou pas. Donc tout seul. Et donc c'est à travers cet esprit un peu la compétition que je suis arrivé donc à l'haltérophilie. Et puis je me suis attaché aussi, et puis j'ai trouvé ça formidable comme sport. Et puis bon, et nous sommes après tout, juste pour tout qui est main, une famille de 14 frères, hein, donc pratiquement 98% font de l'haltérophilie. Donc
ah ouais,
vous voyez, il y a Bernardin d'ailleurs qui venait d'être champion d'Europe, hein, donc récemment, où a assisté Guy donc au championnat d'Europe. Et donc vous voyez, il y a encore sous le pied. Donc cela dit, voilà, c'est à travers donc à cet âge-là que j'ai commencé. Bon, c'est quand je vois comment Freddy, bon, il parlait avoir commencé à 19 ans. Bon, au moins il a commencé, donc il faut quand même commencer, il faut y aller. Il y a 19
ans. Mais j'allais dire, voilà.
Donc, je pense que c'est quand même déjà en soi une volonté déjà, un objectif qu'on se donne, et puis ce qu'on veut faire. Donc je pense qu'il a essayé aussi, hein, à cet âge-là, il a essayé. Bon, après, moi, je voulais pas m'arrêter là. J'avais trouvé cette voie-là pour me permettre de m'en sortir, parce que les études, je savais que c'était un peu mort au niveau des finances, de scolarité de ma mère qui a payé. Donc je me suis dit, à travers ça, je vais peut-être avoir la possibilité d'aller évoluer en Europe. Donc,
Et alors comment ça s'est passé justement? On veut tout savoir.
Donc, avec cette détermination, hein, parce que c'était un parcours de combattant, et donc je vais essayer de synthétiser un peu mon parcours sportif, donc à travers donc mes performances, donc à 18 ans, donc je suis sélectionné pour aller en Afrique du Sud, donc je fais une bonne compétition avec une médaille d'argent, une médaille de bronze, hein, première compétition, avec toute la peur et toute la frustration, mais j'arrive quand même à m'en sortir quand même avec une médaille. Ensuite, c'est les Jeux africains, où donc je suis champion d'Afrique devant une concurrence et costaud, hein. Donc ensuite je suis repéré par le comité national olympique du Cameroun, qui m'attribue une bourse olympique. Donc cette bourse me permet effectivement d'aller en Australie et passer 2 ans pendant la période des Jeux de Sydney. Et donc à travers donc ce parcours-là, donc je passe donc par l'encre à la France. Je fais 2-3 compétitions, donc je suis repéré tout de suite. Vous allez voir que mon parcours, il est vraiment.
Il est incroyable.
Je suis repéré donc par l'entraîneur de l'encre, donc Jean-Louis Gudin, qui garde contact avec moi, hein, donc jusqu'à me demander de venir dans son club pour évoluer là. Donc c'est lui qui paye d'ailleurs le billet, hein, pour que j'arrive en France. Donc j'arrive dans un plateau de langue où il fait froid terriblement, donc c'était incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je peux vous dire que j'avais pratiquement des pulls, hein, que j'ajoutais. Moi je n'aime pas les pulls, mais là je n'avais pas le choix. Donc je voyais la neige centimètre, donc je disais, mais on est où là? Donc ce qui fait que bon, je suis pas resté. On se dirait, on se rappellerait un peu les Rasta Rocket dans le truc. Donc bon, je suis pas resté vraiment longtemps, parce que je suis arrivé quand même avec un visa de 2 semaines, hein, donc il fallait repartir au Cameroun. Donc moi j'ai quand même dit que je pouvais pas, parce que si je partais, j'étais bloqué, je pouvais plus revenir, parce que bon, on avait repéré que bon, tous les sportifs partaient tous. Donc après je suis arrivé à Besançon, donc à Besançon. Juste, j'avais fait 9 mois à Langres, donc après je suis arrivé à Besançon, donc à travers Besançon, où j'ai passé 16 années à Besançon. Et donc, j'ai été naturalisé donc en 2003, donc à intégrer l'équipe de France directement. Et puis, j'ai été très bien accueilli d'ailleurs. Donc moi, j'entends toujours un peu les gens se plaindre un peu de racisme, tout ça. Moi, je n'ai pas connu ça. J'ai été bien accueilli, je me suis bien intégré et je suis fier aujourd'hui. Et donc ensuite, donc à travers cela, j'ai succédé les championnats d'Europe avec l'équipe de France, ainsi de suite. Donc j'ai passé 10 années avec l'équipe de France, hein. J'ai passé 10 années, j'ai arrêté dernièrement en 2016 après les Jeux de Rio, après les blessures, où j'ai d'ailleurs été dans l'encadrement parce que j'étais blessé. Et puis bon, comment je suis donc via ce sport, donc j'ai été également comme je vous dis, le parcours de combattant repéré par Guy aussi, donc avec qui j'ai beaucoup échangé, parce que j'ai été aussi président après la fin de carrière, j'ai été président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Et donc j'ai beaucoup échangé, Guy hein, qui m'a beaucoup épaulé dans les conseils, dans la formation, comment il faut être, comment il faut se comporter. Et donc je pense que il a vu un peu de l'autre côté, pas un lionceau, un lion qui est capable de faire beaucoup de choses. Et donc il m'a tout de suite dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, tu as quel diplôme? Donc moi j'ai dit, bon, et pendant ce temps, pendant que j'étais en équipe de France, j'ai eu la chance effectivement de suivre en même temps une formation, donc de faire le B1, le B2 et tout. Donc il m'a dit, tu as le B2, mais il va falloir que tu ailles passer le professorat. Ça, c'est, et si tu veux vraiment continuer à t'épanouir dans le milieu de l'haltérophilie et puis enseigner à utiliser ton expérience au profit des autres, des jeunes et puis des plus jeunes et des moins jeunes. Et donc à travers ça, j'ai dit tu vas tout de suite, tu vas à l'INSEP, tu vas prendre ton inscription, tu vas prendre tous les papiers. Et donc à travers ça, je passais un moment très difficile et donc la fédération m'a beaucoup épaulé. Et Guy, ils m'ont beaucoup épaulé pour pouvoir effectivement m'accompagner donc dans ce cadre-là, donc pour que je puisse avoir mon professorat. Donc aujourd'hui, voilà.
Quand on vous entend, mais c'est une épopée, c'est une aventure, c'est presque du cinéma.
C'est un roman qui peut aller jusqu'à 1000, à plus de, je ne sais pas combien de pages. Donc,
mais j'allais dire, donc, on pourra en faire un film.
Je vais les synthétiser.
Allez, The Game of Thrones, c'est justement la période. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, il a démontré cette ténacité qu'il connaissait déjà en équipe de France, parce que si la France a obtenu des quotas pour aller aux Jeux Olympiques, c'est bien grâce à son capitaine. Il y a laissé un coude d'ailleurs. Alors, c'est bien avec beaucoup de plaisir qu'on l'a accueilli en Alsace. On va faire une partie de route ensemble. Je crois qu'on a encore beaucoup de pages à écrire et puis qu'on est prêt pour donner, pour investir et puis qu'on va aller loin ensemble.
Merci messieurs, ne bougez pas, petite pause, on revient et dans un instant, c'est promis, on parlera en détail de ce week-end à Durstel. A tout de suite sur STFM.
STFM, la radio de toutes les générations.
18h45, merci d'être avec nous sur STFM avec mes invités exceptionnels. C'est vrai qu'on passe un joli moment, un moment passionnant avec la vie des uns et des autres. Même si on a fait des résumés à chaque fois, il faudra revenir d'ailleurs, hein, quand vous voulez, nous parler un petit peu plus en détail, pourquoi pas, de vos carrières. Il y a tellement de choses à dire. Et puis, surtout, de l'haltérophilie qu'on défend, évidemment. Alors, mon cher Freddy Bruat, président, pour ne pas le citer, du club d'haltérophilie de Durstel, président de la Ligue du Grand Est. Freddy, ce week-end, c'est un moment, oui, quasi exceptionnel pour les athlètes, pour le grand public surtout, qui va pouvoir voir des athlètes, voilà, qui vont faire des démonstrations folles. Enfin, racontez-nous un petit peu ce qui va se passer.
C'est vrai, c'est un moment exceptionnel pour tout ce que vous avez dit. C'est aussi un moment exceptionnel pour le club. Organiser un championnat de France n'est jamais une mince affaire. C'est un travail d'équipe. Il faut une équipe compétente, il faut une équipe motivée, une équipe dynamique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi tout un environnement qui va avec. Je dis toujours, seul on ne peut rien, ensemble on peut tout. Donc travailler ensemble, ça veut dire ben déjà bien sûr, il y a bien entendu la cellule de départ qui est le club qui organise, mais il y a aussi le soutien de la fédération, il y a le soutien des collectivités, que ce soit le département, la région, le CIVU de la SI à venir. Il y a tout ce soutien, le soutien des partenaires qui nous sont importants pour organiser ce genre de compétition, pour accueillir les 150 athlètes qui vont venir des quatre coins de France, pour accueillir tout ce beau monde dans de bonnes conditions.
Alors, on l'a dit, on va tout de suite venir là-dessus pour le grand public. Quand on parle, et on l'a souvent annoncé, nous bien sûr, le championnat de France des ligues pour le grand public, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est précisément ce championnat.
Mais en fait, c'est une compétition par équipe et qui regroupe donc les sélections des régions de France. Mmh. Donc il y a toutes les régions de France qui vont être représentées. Ben déjà le Grand Est, le Hauts-de-France, l'Occitanie, la Normandie. Donc c'est toutes ces régions vont envoyer une sélection donc de 6 athlètes. Donc c'est des sélections mixtes. Une équipe comprend donc 3 filles, 3 garçons. Mmh. Et le samedi, ça sera la compétition pour les U17, donc moins de 17 ans. Le dimanche, pour les U20.
Très bien. Et le public va pouvoir venir donc dès demain midi. Ça, c'est le début des compétitions, c'est ça ?
Le public va pouvoir venir dès demain midi. Bon, c'est effectivement des compétitions ensuite un peu non-stop qui tournent sur toute la journée. Après, nous avons un petit peu notre spécificité et je crois savoir, enfin, on le rencontre pas souvent dans toute la France. Nous, on essaye, notamment sur les périodes du soir, sur les périodes de repas, de présenter un peu la compétition comme le spectacle, mmh. les jeux du cirque, entre guillemets. Mais donc les gens ils viennent, ils peuvent manger à la salle, en même temps il y a le spectacle.
Et ouais, alors là on sait le bonheur.
Et quel spectacle, parce qu'il y a des petits jeunes de 17 ans de toutes les régions qui sont en train de battre et qui battront demain des records de France. Donc on peut s'attendre à de très très belles performances, parce que c'est aussi un soutien pour aller vers d'autres compétitions nationales qui vont venir s'enchaîner, toutes ces finales nationales vont venir s'enchaîner jusqu'à la fin du mois de juin.
Il y aura
important cette compétition de
demain. Oui, j'allais dire du grand et beau spectacle demain, dimanche également. Dimanche, je crois que ça démarre à 10h, c'est
dimanche,
ça ?
Dimanche, on démarre à 10h. Il y aura, comme samedi, il y aura 4 plateaux. Il y aura un plateau 10h, 12h, 14h, 16h. Ensuite, le dimanche, on démarre un petit peu plus tôt, puisque bon, toutes ces délégations, il faut aussi de nouveaux qui rentrent. Il y a des gamins qui ont cours aussi le lendemain, il y a des gens qui travaillent. C'est pour cela qu'on démarre dimanche aussi un petit peu plus tôt, quoi.
Alors, les personnes qui nous entendent et qui ont envie de venir voir ce très beau spectacle, ce très beau sport, bah, pourront le faire donc dès demain. On l'a dit, restauration sur place, il y a toute une équipe évidemment qui s'en occupe. Combien de temps, en fait, alors là je suis très curieuse, mais combien de temps on met pour préparer un tel événement ? C'est des semaines et des semaines en amont tout ça ?
Bah, une compétition comme ça, c'est à peu près 6 mois en avance. Il faut commencer à s'y prendre. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un travail. On peut dire que c'est la face cachée de l'iceberg. Ce que vous allez voir donc ce week-end, c'est la partie visible. Mmh. Mais il y a tout ce travail en amont, ce travail préparatoire. Donc, monter les dossiers de subvention, les partenaires, mettre en place l'organisation. Déjà, il y a d'un côté l'organisation technique de la compétition. Il y a aussi l'organisation logistique, puisqu'il faut aussi mettre en œuvre donc toute la partie restauration, tout ce qu'on fait, la préparation de la salle qui a démarré mercredi après-midi. Donc 3 jours de préparation pour toute cette mise en place.
Et puis bravo aux bénévoles hein, qui œuvrent à tout ça, là, parce qu'il y en a eu des bénévoles, il y en aura encore d'ailleurs.
Ben, c'est clair, c'est du travail bénévole. On dit bien que les travails, on peut pas les bénévoles, on les paye pas. Mais pourquoi on les paye pas ? C'est parce qu'ils ont pas de prix.
Oh, c'est joli ça. Ah, ça j'avais pas encore entendu, c'est pas mal hein. Oh, franchement faudra la retenir celle-là. Voilà donc un joli moment qu'on va passer. Alors je ne sais pas qui veut rajouter quelque chose d'important concernant ce week-end. Freddy, David, Guy. Concernant ce week-end, il y a
Sur le week-end il faut
venir voir quoi, c'est clair.
Dire, tout d'abord la parité. La parité la plus parfaite dans chaque équipe, 3 garçons, 3 filles. Mm. Pour chaque ligue des U15 et des U20, donc des U17 et des U20, ils envoient leurs 12 meilleurs sportifs de toutes les 23 régions de France. Ça va être chaud.
Ah,
je
oui.
crois que c'est un moment inoubliable. Et puis c'est des jeunes. C'est des jeunes, c'est en devenir. C'est en fait, ces jeunes-là, c'est parce que si vous en avez entendu parler peut-être, les Jeux Olympiques sont en France en 2024. Et ces jeunes-là, ils seront peut-être aux Jeux Olympiques. Du moins, c'est ce qu'on espère. Mmh. C'est pour ça qu'on travaille sur ce collectif-là. C'est ce qui, pour nous, est le plus important. C'est nos jeunes. Parce que la Fédération d'haltérophilie, bien sûr, c'est de l'haltérophilie. C'est aussi de la musculation. C'est aussi de la remise en forme. C'est aussi du sport santé. On a plein de raisons de revenir vous voir.
Ah bah j'espère bien, hein, la porte reste ouverte. David, un petit mot sur ce
week-end ? Oui, un petit mot, oui, c'est important. C'est important, bon, je vais souligner, je vais aussi ajouter quelques mots concernant au sujet de l'haltérotour. C'est une animation qui est très intéressante d'ailleurs, qui est née en 2011 après les championnats du monde. Et il serait aujourd'hui très très important et intéressant de venir effectivement, ne serait-ce que voir cette animation et puis amener son enfant qui puisse n'est-ce pas venir apprendre les postures, la sécurité, ce qu'il ne faut pas faire à la maison, ce qu'il faut faire. Et c'est une animation qui a beaucoup de volets, qui réussit plutôt bien aujourd'hui, puisque nous sommes sollicités, la fédération est sollicitée d'ailleurs par les lycées, par les collèges et les établissements, hein, qui demandent de plus à cette animation à arriver. Et puis c'est une animation aussi que sûrement l'Alsace, la Grand Est aura l'occasion de voir, que ça soit dans les animations, soirées, enfin je veux dire les animations au centre-ville, des événements organisés. Donc c'est une animation qui viendra se greffer effectivement pour montrer les bienfaits de l'haltérophilie. C'est comme refuser d'aller voir un médecin pour avoir
fait de l'haltérophilie.
Voilà, donc c'est important parce que c'est plus santé, hein, c'est pas des charges. Donc il faut pas qu'on mette tout de suite en avant la notion charge. Donc c'est pas des charges, c'est la posture, c'est le travail technique, c'est le placement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tous ces jeunes, il y a parfois même les adultes, il y a parfois certains qui ont du mal à faire une flexion sans décoller les talons. Donc je lance un tout petit défi donc au public.
Allez-y.
Essayez de vous mettre en flexion sans décoller le talon.
Essayez, hein, trichez pas. Hein.
Voilà.
Et vous pouvez utiliser à la maison le manche à balai si vous voulez.
Exactement.
Il faudra essayer, rendre après et ne pas le casser.
Pour essayer de travailler au niveau de la souplesse, voir un peu si on arrive à garder le balai, le manche, le balai au-dessus de la tête, tout en restant en flexion au sol. Voilà.
Eh ben, le défi est lancé.
Et puis demain, ce que vous pourrez découvrir, parce qu'on parle de l'haltérophilie, c'est des mots qui restent abstraits, mais on déploie autour de la compétition un ensemble de supports technologiques, grand écran,
caméra,
et donc tout ça qui permettra à tout un chacun de comprendre la stratégie, je dirais la tragédie. Parce qu'une compétition, c'est une tragédie.
Alors la balle est dans votre camp.
Ah, ce sont des jolis mots en tout cas. Eh bien, rendez-vous demain, dimanche, à Durstel. Alors, je sais qu'il y a des gourmands, on a parlé de restauration, mais c'est vrai que le samedi soir, c'est toujours bien de le rappeler, le samedi soir, il y a des pizzas flammes, elles sont super bonnes en plus. On pourra en profiter, Freddy.
Il paraît qu'elles sont bonnes, il faut demander à notre ami Guy.
Alors, je vais vous faire la confidence.
Ah, allons-y, j'adore les confidences.
La tarte flambée, ça existe du nord au sud du Bas-Rhin. Pas tout à fait au sud, mais assez loin au sud. Mais là où on sait faire de la tarte flambée, c'est dans le nord de l'Alsace. Et cette tarte flambée avec cette crème qui en coule, on s'en est partout. Et j'en ai toujours sur ma chemise. J'en ramène toujours un peu à mon épouse sur le rebord de la chemise. Cette tarte flambée, pour moi, c'est la meilleure. Et celle du club du Durstel est de loin la meilleure.
Eh ben alors,
je le dis à qui veut l'entendre.
Eh ben, alors, le message est passé. Hein, donc venez si vous avez envie aussi, tout en voyant le spectacle, hein, et ces athlètes, déguster de la tarte flambée, de la pizza le samedi soir, le dimanche aussi à restauration. De toute façon, on peut se restaurer à toute heure, hein, je crois, Freddy, on l'avait dit.
On peut
dit,
se restaurer à toute heure, il y a de quoi faire. Bon, pour le dimanche midi, le repas de midi, on vous comprendrait bien qu'il y a du travail derrière. C'était Spätzle, émincé de volaille. C'était sur réservation. On a un petit peu de marge quand même.
Il y a peut-être du rab.
Il y a peut-être du rab. Donc...
Rassure-moi, j'ai réservé, moi.
Bon, chacun trouvera son compte de toute façon. Et puis il y a la buvette.
Chacun trouvera sa compte.
La buvette, parce qu'il faut se désaltérer un peu.
Il y a de quoi faire, il y a le spectacle, il y a à manger, il y a à boire. Si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas.
Moi, je dirais ça aussi, c'est un beau mot. Alors justement, encore. Alors, il nous reste 3 minutes. 3 minutes pour conclure. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes invités, c'est de leur laisser la parole. Vous avez envie de dire quelque chose sur ce qui va se passer ce week-end, sur l'haltérophilie. Enfin, faites ce que vous voulez. David.
Alors, on a déjà lancé des défis. Hein. C'est l'occasion aujourd'hui. C'est l'occasion aujourd'hui pour le public de venir voir ce que c'est que l'haltérophilie et pourquoi pas de venir toucher, poser des questions et puis voilà, essayer
oui,
de...
Oui, un haltérophile, ça ne mord pas, hein, donc on peut
bien sûr, bien sûr.
On pourra peut-être toucher les biceps de David Batin. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viendront. Ah.
Donc voilà, nous ne mordons pas. Nous invitons le public hein, à venir effectivement à cette compétition, de venir regarder et puis pourquoi pas aussi d'aller pour une simple curiosité, d'aller voir dans une salle donc à Durstel, voir un peu la pratique de ce sport-là. Parfois, les gens ont souvent peur d'emboîter le pas, mais je pense que si on les amène petit à petit, ils trouveront ça fabuleux. Et puis en plus, avec ça, la perte de poids accélérée, il n'y a rien de mieux que soulever, faire une série de 10 avec une barre vide. Et puis de perdre quelques grammes, quelques calories, quoi.
À bon entendeur.
Salut.
Merci, David. Guy, le mot de la fin.
Tu es tout à fait d'accord.
Enfin, après, ce sera Freddy, le mot de la fin.
Donc, je ferai le mot de la demi-fin. Moi, je ne sais pas ce que vous faites. Tous les habitants de la région, je ne sais pas ce qu'ils feront demain. Et moi, je serai à la salle d'haltéro. Vous verrez, c'est le petit gros qui est en train de s'intéresser à la technique. Et qui essaiera de faire fonctionner l'ensemble des engins qu'on aura mis à votre disposition.
Et Guy ne mord pas, donc et on Guy peut aussi mord. Poser des questions si on est curieux, etc.
Il paraît qu'il aboie. Il aboie beaucoup, mais il ne mord jamais.
Ah ben, chien qui aboie ne mord pas, dit-on. Eh ben voilà. C'est le mot de la demi-fin.
C'est tout à fait le mot de la demi-fin.
Eh bien, à demain, messieurs. Et Freddy, président du club, évidemment, pour terminer cet entretien. On a passé un formidable moment. Freddy, le mot de la fin.
Je dirais simplement, pour que la fête soit belle, c'est seul, on ne peut rien. Ensemble, on peut tout. Donc, c'est un travail d'ensemble. Alors, bien sûr, les athlètes, il faut qu'il y ait le spectacle. Il y a une équipe qui organise, qui met en œuvre tout ce truc. Et il y a aussi... les partenaires, les collectivités, tous ces gens qui nous aident, mais il y a aussi le public qui nous soutient.
Eh oui, sans venez
public,
nombreux.
Il n'y a pas de manifestation non plus.
Venez nombreux, merci en tout cas à tous les trois. Nous avons passé vraiment un très beau moment avec vous. On pourra donc vous rencontrer en chair et en os pour les fans là, qui vous ont écouté aujourd'hui. Eh bien, rendez-vous demain et dimanche à la Salle Avenir à Durstel pour ce formidable championnat. Et vous allez voir que vous allez devenir aussi accro, croyez-moi. Merci messieurs, la porte est toujours ouverte, donc vous revenez quand vous voulez. Merci.
Ce sera avec plaisir.
Ah bah c'est formidable. Merci.
Merci.
Merci à Stéphane. Merci Sylvie.